Circus.
Ah, c'est pas sur moi.
Cannabis Circus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs sur Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et nous allons vous parler, comme tous les lundis soirs, et ben de chanvre, de cannabis, de weed, quoi, tout ça, quoi, d'herbe. On va vous parler de quoi, de quelques petites brèves françaises, des trucs assez bizarres, des trucs étranges qui se passent soit à Nantes, où on voit des bars SNCF transformés en coffee shop. On va aussi aller faire un tour en Mayenne, où qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah oui, c'est la guerre totale contre la drogue, contre tout ça, contre la drogue, contre l'alcool, voilà, une guerre totale. On ira aussi après voir quelques petites choses du côté du cannabis, du côté de la recherche. Ça sera un substitut affectif, on reviendra là-dessus. Voilà, ça sera la première partie. Après, une grosse partie sur le Canada avec plein d'articles sur la légalisation qui s'annonce là-bas au Canada. Et ben, donc, il y aura la Belgique qui va nous en parler, la Suisse. Et puis, des gens du Québec, des gens de Contrepoint. Donc, je pense que c'est aussi des Canadiens. Voilà. Ça sera la grosse partie. Et puis, on finira par des petites brèves du côté de la Tunisie ou du côté de l'écologique avec un béton en chambre. Voilà un petit peu pour la revue de presse de ce soir.
Peut-être la Tunisie, c'est un peu plus important que le béton de chambre.
Oui, bien sûr.
Sur la Tunisie, parce que ce qui arrive à ces jeunes, là, c'est quand même vraiment hallucinant, quoi.
Ah bah, ça rappelle un petit peu ce qui se passe en France. Hein,
c'est exactement ce que je me suis dit en lisant l'article. J'ai dit, mais ça aurait pu se passer à, je sais pas, à Brest, La Rochelle, Tourcoing. Peut-être pas Tourcoing. Non.
Comme quoi, le monde est de plus en plus international.
Ouais.
Les lois répressives sont toujours les mêmes partout et de par le monde, et ben on commence à avoir un souffle d'espoir des États légalistes de plus en plus. L'ONU va en parler l'année prochaine. Voilà,
on ne manquera pas de suivre l'actualité d'une gastre.
Et puis on essaiera peut-être de manifester à ce moment-là, d'essayer de faire pression sur nos gouvernements, de voir peut-être que notre gauche va avoir un sursaut. Si elle veut gagner 2 points de croissance, 500 000 personnes en moins, 500 000 chômeurs de moins, 2 milliards d'impôts dans les escarcelles, quoi. Il y a tellement d'avantages que je ne sais pas lequel mettre en avant. Ce qu'il faudrait surtout, c'est un gouvernement intelligent, voilà, un vrai gouvernement de gauche.
D'autres personnalités politiques.
Voilà, des gens qui sont vraiment pour la liberté, qui sont pour l'égalité, qui sont pour la fraternité, qui sont
des gens normaux,
qui sont pour les coups des autres, quoi. Mais... Essayer de comprendre la société plutôt que.
Je pense pas que c'est
plutôt
canon,
que faire une répression aveugle, débile, obscure, avec des œillères.
Tu vois bien que c'est pas leur créneau à ces gens.
Et oui.
Leur créneau, c'est de garder leur responsabilité, leur fauteuil, leur marocain, hein, parce que bon, on sait que la soupe est bonne, hein, et que voilà, ils travaillent à maintenir leurs petits avantages, leurs intérêts.
Ouais.
Donc bon, je pense qu'on est encore très loin en France, malheureusement, de tout ça, quoi. Voilà, c'est triste, mais.
Allez, on revient dans quelques minutes pour développer tout ça.
Un peu de musique pour sourire. Quand même. Allez, à tout de suite. Avec Trio, bien sûr. La main verte.
J'ai pensé que peut-être on pourrait nous permettre de fumer nos bêtes.
Fumer.
J'ai pensé que le bien-être se retrouve dans la fête et que ce commerce fait recette.
Va te faire mal.
J'ai compris en fumant que fumer c'est de l'argent.
Et des gens donnent à des gens
qui allègrement amassent des bagues en diamant
sur dos de pauvres paysans. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution. Des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
Faites fleurir les jardins,
décorer les balcons. Expliquez à vos voisins que fumer vous coûte du pognon. Je veux fumer de l'herbe de qualité, boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé.
Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité.
Qu'on arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution. Des tonnes de graines pour des des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds l'eau.
Y a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds l'eau. C'est une malhonnête
servant à nos dirigeants
qui s'entêtent et répètent à dire que la fumette
c'est pas bon pour les gens.
J'ai compris que pour du chichon tu peux aller en prison,
que l'alcool tu as foison.
Que si la légalisation n'est pas le mot d'ordre de ces bouffons,
c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Alors c'est bon, bang, bon. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
Faites fleurir les jardins, décorer les balcons.
Expliquez à vos voisins que fumer vous coûte du pognon.
Je veux fumer de l'herbe de qualité, boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé. Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité. Qu'on arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boum.
J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds. Alors c'est
bon, bang, boum. Voilà, c'était donc Trio, n'est-ce pas?
Ah ouais, tout à fait, la main verte.
Avec la main verte, une petite chanson qui nous redonne un peu d'optimisme. Je sais pas comment faut appeler ça. Après ces élections régionales, résultat magnifique. Voilà, bon, donc on va rentrer dans le vif du sujet, dans l'actu de ce Cannabis Circus du 14 décembre 2015, l'un des derniers numéros de l'année 2015, puisque très bientôt on va être en 2016. Donc voilà, on ouvre un peu cette émission par quelques petits faits divers, voilà, pas essentiel, hein, mais qui donne un peu un aperçu de, je sais pas, l'activité cannabique française, un peu. Alors c'est un exemple. Bon, voilà, il y a un trio de jeunes hommes, de jeunes individus, près de Nantes, qui avaient eu l'idée. Alors je sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Enfin, vu ce qui leur arrive, à mon avis, elle est quand même plutôt pas très bonne. Qui avait eu l'idée donc de vendre un peu de cannabis, d'herbe, voilà, au comptoir d'un des bars de la gare SNCF de Nantes. Voilà. Et puis, ça s'est su, visiblement, puisque la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale du coin les poursuivait pour des cultures, enfin pour de la culture en intérieur en fait.
Voilà, oui, c'est un trio qui cultivait et un seul a priori vendait à la gare
à Nantes là, ouais.
Et donc, ben ils ont été arrêtés, les policiers sont tombés sur leur cannabis et sur leur production et donc ils seront convoqués au tribunal.
Voilà, donc tout ça pour dire que si vous cultivez chez vous et que vous voulez en vendre, genre à la gare, dans un bar, genre de la gare, ou dans un commerce qui a pignon sur rue, globalement, je ne pourrais que vous recommander d'éviter de faire cela, que c'est quand même plutôt une pas très bonne idée, quoi. Après, voilà, si vous avez envie, je sais pas, de rencontrer la police, la justice, et éventuellement la prison, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je suis pas sûr que ce soit la vocation de toutes les personnes qui veulent consommer ou même cultiver du cannabis. Voilà, donc faut quand même
même faire si gaffe, ça peut faire un petit apport d'argent, voilà, la personne gagnait a pu faire 700 euros par mois en vendant sa production, mais voilà. A priori, ça lui a rapporté moins que ce qu'il a gagné.
Ouais, donc bon, bah, méfiance. Alors, on s'est un peu passé là, c'était ce week-end, mais on va quand même en parler. C'est toujours dans Ouest France. On remercie Ouest France d'avoir divulgué cette information, même si bon, alors on vous en parle là, c'est un peu tard, hein, parce que ça se passait ce week-end, 12-13 décembre. En tout cas, bon, merci à Ouest France de divulguer l'information, à savoir que la police et la gendarmerie mayennaise essentiellement, avait mis sur pied une opération intitulée Alcool et drogue tolérance zéro. L'objectif étant de faire du test salivaire et du test d'alcoolémie également sur le bord des routes, dans cette région, enfin dans cette dans ce département même, c'est-à-dire près du Mans, hein, près, entre Laval et Le Mans, enfin dans ces coins-là en fait. Pourquoi ? Parce qu'on nous explique que dans ce coin-là, il y a une grande insécurité et qu'elle continue d'augmenter dans ce département, avec un grand nombre d'accidents, 124, beaucoup de tués, 17, ce serait supérieur à l'année dernière. Le mois de novembre aurait été marqué par plusieurs accidents aux graves conséquences, dont la cause essentielle, nous dit-on, est la prise d'alcool ou de produits stupéfiants. Voilà. Là, il y a où ? Parce que souvent, il y a et. Mais, et on ne dit pas d'ailleurs lequel est le plus impliqué éventuellement dans l'accident. Alors, bon, après, on nous parle de la vitesse qui est souvent impliquée aussi dans ces accidents. On nous dit que dans plus de la moitié des accidents, bah, la personne qui est impliquée conduit sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants également. Alors, on ne sait pas de quel produit, hein, ils n'en parlent pas. Voilà, on en revient sur l'alcool qui est à l'origine de 20% des accidents de la circulation après la vitesse. Donc la vitesse c'est avant encore. Hein. Et donc voilà, donc tout ça c'est aggravé par la prise d'alcool, mais également aggravé par la prise de stupéfiants. Et donc voilà, ils allaient, la gendarmerie allait mener campagne dans le département mayennais pour faire des contrôles. Sur les routes, sur le réseau secondaire, mais aussi sur les axes nationaux, mais aussi dans les agglomérations ou même aux abords des établissements de nuit. Chaque conducteur, peut-on lire, pourra à tout moment et en tout lieu être soumis au dépistage de l'alcoolémie et des produits stupéfiants en Mayenne. Voilà, parce qu'en tout lieu, c'est pas forcément dans toute la France.
Ça va le devenir très rapidement, hein, de toute manière, vu les dernières lois qui sont passées.
Ouais, mais bon,
mais là, pour l'instant, c'est a priori.
On ne peut pas avoir les moyens de mettre 35 000 brigades de police ou de gendarmerie les samedis soirs ou entre le samedi et le dimanche avec des millions de tests salivaires ou d'alcotests. Moi, je pense qu'ils jouent plus sur la com que sur la réalité des contrôles, même s'il y en a beaucoup. Hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. On le voit bien au cirque, hein, il y a des automobilistes, des gens qui nous appellent et qui ont eu des problèmes avec la gendarmerie, ils ont dû souffler dans le ballon, faire un test salivaire, bref, bon. On sait bien que c'est une réalité. Donc voilà, encore une fois, cet article est l'occasion pour nous de vous rappeler que c'est pas une bonne idée non plus de fumer un joint et de prendre tout de suite le volant après, ou encore même pire, de fumer un joint, de boire de l'alcool et de prendre le volant. Là, vous avez les deux, quoi. Test, vous avez le salivaire et alcotest. Et les peines sont lourdes. Voilà, je vous invite à vous rendre sur le site internet du Cirque Lyon, où il y a un flyer qui a été réalisé sur le cannabis et la conduite automobile, avec dans ce document, hein, les poursuites qui peuvent vous qu'on peut vous faire, voilà, donc les peines de prison, les amendes, tout ça. Donc je vous invite à aller en vous rendre sur le site internet du Cirque Lyon, www.cirque-lyon.fr. Voilà pour ça. Ensuite,
et ben, troisième petite brève très rapide,
plus intéressante,
qui vient de Science et Avenir, un petit peu de recherche. Donc c'est une toute petite brève là-dessus, qui nous dirait que le cannabis serait un substitut affectif. Dit comme ça, on se demande pourquoi. Donc c'est le principe actif, le THC, le tétrohydrocannabinol, qui présenterait des similitudes avec l'hormone du lien social. En gros, c'est que le THC donc emprunte la même voie de signalisation dans le cerveau que celle de l'hormone du lien social et maternel, appelée l'ocytocine.
L'ocytocine, oui.
Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que fumer du cannabis serait perçu comme un moyen de faciliter les relations sociales et de calmer l'anxiété. Voilà, on apprend, on découvre un petit peu plus comment fonctionne le tétrohydrocannabinol dans le cerveau. Donc, comme le THC et l'ocytocine, je vais y arriver, l'ocytocine, O-C-Y-T-O-C-I-N-E, un beau mot pour le scrap. Donc le THC et l'ocytocine donc stimulent des récepteurs dans une région du cerveau responsable du sentiment de récompense. Donc cette stimulation augmente, donc ils ont découvrir ça chez les souris. Hein. Et donc, les scientifiques américains ont découvert que chez les souris, ça augmentait la stimulation et ça augmentait le plaisir de la souris à retrouver ses congénères. Donc, le cannabis serait donc un substitut des effets bénéfiques d'une reconnaissance sociale ou maternelle passant par la production d'ocytocine, en plus de son action déjà connue contre l'anxiété.
Ouais, alors, ouais, c'est très intéressant. Après, il y a d'autres études qui disent que fumer, ça accroît l'anxiété. Donc voilà, avec le cannabis et le THC, c'est jamais simple en fait. Hein. Voilà. C'est pareil sur les études qui ont été faites sur le QI des consommateurs. On avait vu hein, à plusieurs reprises que. Les effets peuvent être l'effet et son contraire selon les doses utilisées. Donc je pense que ce qui se dit pas là, mais en tout cas fumer beaucoup beaucoup de cannabis très très régulièrement, c'est pas forcément ça agit pas forcément contre l'anxiété, au contraire ça peut même l'accroître. Donc bon voilà,
c'est tout ce qu'est le cannabis, ouais. Avec plus de CBD, complexe. Plus de CBN, plus ouais, de ci, ouais, plus de ça, ça dépend. Quelle est la teneur de
tous ces cannabinoïdes et du contexte dans lequel vous consommez.
Voilà, dans votre résine ou dans votre herbe. Allez, on fait une petite pause et puis on revient sur pour parler du Canada.
Canada, avec une grosse page Canada aujourd'hui. Allez, musique, à tout de suite.
Mr. Herbsman, this is my son. To all you herb sellers and all you herb vendors in London, England, Great Britain. You're gonna get a beat for selling the herbs so dear. So I'm gonna lose a leg, as I'm gonna lose a hand. So I'm gonna lose a wife, as I'm gonna lose a life by selling ganja so dear. Stop acting weird. We're not scared. Dig. I said to dig. I got to turn you in a pig. Yeah. talking too dear for her.
Et donc, eh bien, nous venons de nous écouter Lee Scratch Perry, Mr. Herbsman.
Ouais, Lee Scratch Perry. Donc, on va ouvrir cette grande page Canada à présent.
Oui, dont on vous a déjà parlé un petit peu, on a déjà évoqué ça la semaine dernière avec le nouveau, c'est un Premier ministre, c'est ça, oui,
c'est un Premier ministre, oui. Justin en anglais, mais Justin Trudeau, peut-être qu'il est francophone, hein, il s'appelle pas Justin.
Ah, donc c'est Justin alors. Ouais, donc Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, donc qui avait fait cette promesse dans son élection, et c'est un politique a priori qui tient ses promesses. On n'a plus l'habitude en France, mais voilà.
Enfin, je sais pas s'il les tient sur tous les domaines, hein. C'est un peu, t'es un peu optimiste là.
Là, en tout cas, il tient celle-là.
Enfin, en tout cas, sur le cannabis, il a l'air de la tenir. Et souvent, c'est souvent sur celle-là qu'ils les tiennent pas. Hein. Mais ils les tiennent pas ailleurs non plus. Hein. Bon, on verra. Hein. J'espère pour les Canadiens, en tout cas, qu'il tiendra la plupart de ses promesses. Mais ouais, enfin, en tout cas, c'est bien parti.
Voilà, en tout cas, ben.
Puis ça fait couler pas mal d'encre, en fait. C'est aussi pour ça qu'on en parle.
Tout à fait. Donc, c'était dans son discours de politique générale la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Il a tracé la ligne et dans son discours, il a rappelé qu'il prendrait des mesures législatives qui légaliseront et réglementeront la consommation de marijuana et limiteront l'accès à cette substance. Donc, une réglementation encadrée, dirons-nous.
Oui.
Voilà, donc...
Non, puis alors surtout quand même, parce que ça fait... C'est en fait le titre de deux des articles qu'on a ce soir à vous relater. Un article du Belge de RTL.be et un article de la Tribune de Genève de TDG.ch, donc un journal plutôt, enfin un journal belge et un journal suisse. Et les deux titres, Canada, la légalisation du cannabis, sans réelle opposition. C'est ça qui est fou, hein, c'est qu'en fait, les conservateurs en face,
ça passe.
Ça passe, quoi. Hein, ils s'aplatissent, quoi. Hein. Ils vont pas mettre en place une coalition qui va s'arc-bouter contre la légalisation du cannabis avec... Non, non, rien du tout, apparemment. Alors, ils sont pas d'accord, hein, parce que là, dans l'article de RTL, c'est écrit quand même que c'est dénoncé par les conservateurs. Hein. C'est dénoncé, certes, mais c'est tout. Voilà, ça va pas plus loin, quoi.
Ça va pas plus loin, mais là dans l'article, ils disent les deux tiers des Canadiens sont pour la légalisation. Alors bon, c'est pas tout à fait ça, parce que justement, quand on regarde un petit peu dans tous les articles, on s'aperçoit que le pourcentage a bien évolué. Hein, seulement 12% étaient d'accord en 1970 pour légaliser la marijuana, 31% dans les années 2000, et 58% dans les années 2015. Donc, on n'est pas encore à 60%, hein, on n'est pas encore tout à fait aux deux tiers. Bah, ça n'empêche pas, hein, les Belges, le journaliste belge devait être enthousiaste, de 58, il est passé à 63, soit les deux tiers. Allez, quand même 66. Allez, les deux tiers, ça roule. Bon, en tout cas, voilà, c'est aussi pour ça sans doute que les réformateurs, quoi, les réactionnaires ne bougent pas beaucoup, c'est qu'ils sont minoritaires. Ici, en France, il y a encore la majorité de la population qui diabolise cette drogue qu'est le cannabis et qui est contre cette légalisation. Donc, évidemment, il n'y a aucun politique qui ose bouger.
Alors, il y avait eu un sondage qui avait été publié l'année dernière, fin mai, début juin. Et il y a quand même une majorité de Français qui étaient favorables à la mise en place d'un système qui ne soit pas la libéralisation du cannabis.
Je crois que oui. Alors, en fait, c'est pas ça. Ça dépend comment on pose la question.
Bah, oui,
c'est-à-dire, par rapport à la prohibition, ils sont contre la prohibition. Ils trouvent que c'est pas la bonne méthode. Mais ils sont pas pour la légalisation. Alors après, il faut trouver une formulation. Est-ce que vous êtes pour une légalisation encadrée ? Oui. Est-ce que, voilà.
Bah, le problème, c'est que les médias, déjà, malheureusement, informent mal et communiquent mal sur le sujet, parce que pour les journalistes, les dépénalisation, légalisation, libéralisation, décriminalisation, législation, légifération, encadrement, nanani, nanana.
C'est tout pareil.
Ça veut rien dire. Hein. C'est pas du tout les mêmes termes pour les mêmes modèles.
Tout à fait.
De légalisation, mais bon.
Mais ce qui est très marrant, c'est légalisation contrôlée, ça fait un petit peu pléonasme.
Oui,
mais
oui,
bon.
Bien sûr. Mais, bon, si
mais c'est apprécié, vive les pléonasmes.
Oui.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on apprend aussi dans l'article des Belges ? C'est que même la police canadienne pousse pour une légalisation encadrée depuis 2 ans. Donc voilà, ça avance, hein, de plus en plus, les gens pensent que, et Justine Trudeau, la première fois, l'a dit il y a 2 ans, quand elle était députée, l'interdiction actuelle du cannabis est injustifiée. Plus de 100 000 dossiers d'infraction aux stupéfiants ont été ouverts au Canada, dont 2/3 portaient sur la simple possession par la personne interpellée. Ça me rappelle quelque chose, ça. Hein. C'est à peu près les mêmes chiffres qu'en France, quoi. Sauf qu'en France, c'est encore un peu plus élevé. C'est pas 100, mais 200 ou 160 000 dossiers.
Bah, c'est 150 000 ou 160 000 interpellations, mais là, c'est faux, 100 000, parce que plus loin, il y a un article où il parle de 400 000 par an.
Ah.
Donc c'est 4 fois ça. Moi aussi, quand j'ai vu 100 000, je me suis dit, mais c'est incroyable, ils arrêtent. Il y a même une moindre répression au Canada, alors que c'est quand même un pays qui fait 18 fois ou 19 fois la France, quoi. Donc, et puis il y a quand même du monde là-bas. Eh bien, en gros, ils avaient des statistiques moins élevées qu'ici, quoi. Mais bon, malheureusement, il faut bien, encore une fois, le dire, hein, parce que c'est quand même une réalité, la France est certainement... l'un des pays au monde aujourd'hui qui est le plus répressif sur la question des drogues et du cannabis. Enfin, du cannabis en particulier. Hein.
Tout à fait.
Ça coûte des centaines de millions d'euros.
On n'est peut-être pas le plus répressif, mais on est bien dans le peloton de tête.
Ah ben oui, ouais, je pense en valeur relative comme en valeur absolue. Quoi. Bah, y a qui comme pays qui réprime vraiment comme ça, massivement? Il y a l'Indonésie, il y a peut-être la Malaisie, la Chine.
La Suède, je crois, non?
Ouais, mais non, mais même en Suède, c'est pas.
Même
c'est,
là, en Suède, ils sont revenus dessus.
Hein. Non, ils sont pas aussi. Donc voilà, en gros, la France. Faudrait avoir les statistiques. Hein. Je pense que là, on fait un peu de prévision au doigt mouillé, quoi. Mais...
Voilà, bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que répression ou pas répression, les Français restent dans le peloton de tête, par contre, des fumeurs. Comme quoi, la répression n'a aucune action et aucune relation avec la consommation.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est avancé là par un spécialiste, hein, qui est un professeur de criminologie à l'Université d'Ottawa au Canada, donc Eugène Oscapella, qui s'appelle. Et voilà, lui, c'est ce qu'il dit, hein, c'est que de toute façon, il n'y a pas eu plus de consommation de cannabis en 10 ans sous Stephen Harper, qui était ministre de l'Intérieur et qui était particulièrement sévère avec les histoires de cannabis. Donc, vu que ça n'a pas bougé, vu que le nombre de consommateurs est le même, que ce soit en régime hyper prohibitionniste ou moindre prohibitionniste, c'est une manière d'expliquer que là aussi, la sévérité des lois, les lois et tout, n'ont finalement pas beaucoup d'impact, hein, sur tout ça, quoi.
Voilà. Voilà, donc lui, il prône une légalisation de l'usage du cannabis à des fins récréatives, ce qui supprimerait le marché illégal, ce qui mettrait fin à un terme, à un modèle d'interdiction ou de répression qui a conduit à une criminalité galopante dans certains pays comme le Mexique, où règnent les cartels de la drogue. Donc c'est toujours Eugène Oscapella qui parle.
Voilà. Voilà. Mais bon, en France aussi, il y a pas mal de chercheurs, de scientifiques qui ont passé le pas, hein, et qui savent très bien, qui le disent d'ailleurs souvent, hein, parce qu'on, des fois on les cite, qui sont dans des anti-prohibitionnistes et qui voudraient la fin de ce système qu'on a en France. Bon, voilà, on peut revenir sur nos politiques... borné. Donc toujours sur le Canada, dans tous ces articles-là, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On nous parle toujours des États-Unis en fait, hein, puisque les Canadiens observent ce qui se fait du côté sud, un peu plus au sud de leurs frontières, c'est-à-dire aux États-Unis. On observe depuis le Canada ce qui se passe au Colorado, dans l'état de Washington. On nous dit qu'en novembre, le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies a tiré les conclusions de ses missions aux États-Unis en recommandant, je cite, des changements plutôt graduels plutôt que d'agir trop rapidement. Voilà. Avec des objectifs de santé publique surtout, et aussi tout en essayant d'assurer et d'éviter, pardon, tout en s'assurant d'éviter une délinquance ou une criminalité associée à cette légalisation. Voilà, l'objectif de la légalisation, c'est justement de couper court à la criminalité. Donc voilà, après on repart, hein, on revient un peu sur ce qu'on a déjà dit, la police qui pousse un peu pour changer la loi. Qu'est-ce que j'ai pas dit non plus dans cet article de la Tribune de Genève? Non, je pense qu'on va peut-être passer aux articles d'après, hein. Il y a deux articles qui sont intéressants, l'article de contrepoint.org et l'article du Québec HuffingtonPost.ca.
Voilà, après, ils doivent avoir les deux journalistes, aussi bien suite de la Belgique que du Suisse, ont à peu près les mêmes choses, parce qu'ils disent tous les deux qu'un Canadien sur deux, 44%, donc là aussi, ils ont quand même vraiment des...
des proportions assez larges.
Voilà, 44%, ça fait 1 sur 2.
Voilà, bon. Bah,
voilà, donc 44% des Canadiens reconnaissent avoir fumé du cannabis. Donc, on en est quasiment à 1 sur 2.
Oui, ils disent pratiquement un Canadien sur 2. Donc, à quelques points près.
Et la première consommation, donc, se situe entre 15 et 16 ans, ce qui est beaucoup plus âgé qu'en France, hein, où je crois qu'on a descendu à 14-15 ans. Mais bon... Voilà, bref.
C'est encore une preuve que
la répression ne sert à rien.
Oui, puis qu'en plus, elle fait pas baisser l'âge de la première consommation ou des consommations chez les jeunes. Voire au contraire, plus c'est interdit, plus c'est clandestin, plus il y a de prohibition, plus ça permet à des individus jeunes et peut-être fragiles de s'en procurer. Voilà. Alors qu'un système qui est un peu plus flexible, un peu plus souple. Comme c'est le cas au Canada d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même un système qui est, à mon avis, un peu moins criminalisant que ce qu'on connaît en France. Ben on a un âge qui est légèrement supérieur.
Mmh. Voilà, et donc on continue avec nos différents articles, on passe à celui de Contrepoint.
Un bon article, hein, Contrepoint qui nous a souvent fait des articles plutôt prohibitionnistes, mais là...
Voilà, et là
Jasmine Guénette...
Voilà, qui se pose la question, ce que la légalisation du Canada pourrait avoir comme effet politique et économique.
La légalisation du cannabis au Canada.
Oui, tout à fait.
Le Canada est déjà légalisé.
Il rappelle que malgré donc des lois strictes qui s'appliquent autant aux producteurs, vendeurs et consommateurs de cannabis, malgré le nombre élevé de kilos saisis par les autorités policières chaque année, la culture de l'herbe et sa consommation ne diminuent pas.
Comment ?
Voilà, donc ça c'est vraiment le chose, donc c'est pour ça que Jocelyne Prudeau intervient et veut légaliser. D'abord pour les bénéfices économiques. En regardant ce qui se passe au Colorado, où ils voient que déjà là, ils ont plus de 100 millions de dollars de recettes par mois, ils se disent... A priori, au Canada, ça devrait rapporter beaucoup, hein, puisque quand ils regardent le Colorado, ça fait quand même 871 millions de dollars pour l'année en cours, ce qui risque d'être encore plus élevé l'année prochaine. 700 nouvelles entreprises qui ont ouvert leurs portes, quoi, voilà. Donc, il y a vraiment de l'emploi, hein, puisque toutes ces entreprises ont besoin de main-d'œuvre, ont besoin de fournisseurs. Et en plus, toutes ces entreprises payent des impôts, donc ça fait quelques points en plus dans l'économie. Donc plutôt que dépenser des sommes colossales pour empêcher les gens de faire quelque chose qu'ils vont bien souvent faire de toute façon, on pourrait laisser émerger un secteur économique qui créerait de la richesse plutôt que de la dilapider et de la laisser partir en fumée.
Voilà, après, dans cet article, il parle aussi de l'aspect touristique de cette légalisation, et notamment au Colorado, où les boutiques qui ont ouvert et qui vendent aussi à des touristes. Et là, dans cet article, ils disent qu'on estime à plus de 70% la proportion de touristes parmi les clients. Voilà, ça me fait penser un peu à la Hollande, en fait, hein. Parce que les États-Unis, c'est une confédération d'États, et les États autour du Colorado n'ont pas encore légalisé. Et alors là, quand il parle des touristes, je ne sais pas si c'est des touristes qui viennent d'extérieur des États-Unis ou juste qui viennent de l'extérieur de l'État du Colorado. Mais effectivement, oui, il peut y avoir beaucoup de touristes entre guillemets, quoi.
Ah oui, il y a des gens de toutes les États-Unis qui vont faire leur petit week-end dans le Colorado.
Ouais, ou qui vont dans l'État de Washington. Bon, pas forcément aller en Alaska, parce que c'est un peu plus loin, quoi. Mais le Colorado étant plutôt dans l'Ouest, enfin même carrément dans l'Ouest, mais un peu dans le centre aussi. Je pense qu'il y a du monde qui va au Colorado, dans l'État de Washington. Puis il y a l'Oregon aussi qui a légalisé, hein. Quand même plutôt dans l'Ouest tout ça. Il y a Washington DC, la ville de Washington, qui a décriminalisé la possession. New York aussi. Donc à l'Est, il se passe un peu de trucs, mais c'est pas encore des États.
Oui, c'est que des villes.
Voilà.
Alors,
Il se pose aussi une autre question, là, l'article de Contrepoint, sur le coût de la prohibition, sur savoir aussi qu'est-ce qui se passe, parce que la grande crainte, en tout cas, ce que nous assènent les prohibitionnistes, c'est si on légalise, il va y avoir une boom de la consommation.
Tout le monde va vouloir en fumer.
Voilà, donc le Portugal qui a légalisé, ou en tout cas qui a dépénalisé il y a déjà plus de 10 ans, prouver un petit peu le contraire, c'est qu'il n'y avait pas eu de boom de consommation. L'Uruguay qui est en train de légaliser, donc c'est un petit peu difficile à dire, mais la grande raison, c'est aussi une raison économique qui a été avancée en Uruguay, surtout ne pas laisser le marché noir ou le marché du cannabis aux trafiquants et éviter de devenir la route de transit de la marijuana est devenue et de tomber aux mains des cartels comme le Mexique voisin.
Ouais.
En ce moment, c'est surtout le crime organisé qui profite de la vente de cette drogue. Donc il faut faire quelque chose pour ça. Et c'est pour ça que légaliser pour eux est le meilleur moyen de priver de cette manne financière, de priver le crime organisé de cette manne financière.
Oui. Alors là, dans cette suite d'articles, dans cette partie de l'article, pardon, dans la suite, il parle justement de ce rapport du Sénat canadien. Je me demande, c'est pas le rapport Nolin qui date de 2002. Et en tout cas, voilà, ils avaient chiffré le coût annuel de la prohibition du cannabis. Juste ce qui est de l'application de la loi et du système judiciaire donc au Canada, ça variait entre 300 et 500 millions de dollars par an. Voilà, bon. C'est tout. Une pécadille, quoi.
C'est quand même un coût disproportionné par rapport aux conséquences de ce produit sur le plan social et de la santé. Et surtout par rapport aux résultats, quoi. C'est de l'argent, comme disait l'autre, le Belge, ça part en fumée.
Oui.
Voilà, et il se pose la question si demain...
Imaginez si la bière était illégale.
Voilà, qu'est-ce que feraient les amateurs de bière et qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire pour pouvoir se payer leur petite pinte.
Voilà. Et donc, c'est pas mal à la fin ce qu'il dit. Voilà, dans notre société, pour s'assurer que les effets néfastes de la consommation d'alcool soient plus faciles à gérer, on pense qu'il est préférable que le produit soit légal, n'est-ce pas ? Ce raisonnement logique s'applique aussi à la marijuana. La meilleure politique publique concernant la marijuana n'est pas la prohibition, mais la légalisation et la réglementation. Ce avec quoi un grand nombre de Canadiens sont d'accord. Voilà. Fin de cet article de contrepoint.org.
Et donc le dernier article un petit peu plus documenté, je ne sais pas si on peut dire ça, mais avec plus de chiffres en tout cas, c'est un article donc du Québec, et l'article c'est j'ai visité le Costco.
Le Costco du cannabis. Voilà, ça vient de la version québécoise du Huffington Post.
Voilà, donc le Costco, ça doit être le... un des États du Colorado ou de l'Alaska qui ont légalisé.
Un des États, ben non, l'État du Colorado, c'est le Colorado.
Oui. Oui, hein, non, mais le oui, non, le Costco, je ne sais pas ce qu'ils entendent par ça, par ouais, là, bon, là, mais cool. Bon. Voilà, donc il nous rappelle en tout cas qu'il y a quatre États qui ont légalisé le cannabis pour des raisons récréatives, donc Colorado, Washington, Alaska, Oregon, on l'a déjà dit. On rappelle que 23 États ont légalisé l'usage de la marijuana pour des fins médicales et 15 États ont décriminalisé la marijuana. Donc voilà, c'est quand même en route. On sait qu'il y a encore quelques États qui sont sur les rangs. Pour ne pas les citer, c'est la Californie, l'Arizona, le Maine, le Massachusetts, le Nevada. Nevada qui a déjà fait une tentative en 2014 et donc qui devrait de nouveau se diriger vers la légalisation en 2016.
Oui, il y a à peu près une vingtaine d'États hein, qui pensent changer leur législation dans les deux prochaines années. Une vingtaine d'États. Ah. Très vite, si ça se trouve, d'ici 3-4 ans, plus de la moitié des États-Unis sera sorti de la prohibition. Mmh.
Voilà. Et peut-être que l'année prochaine, à l'ONU, il va y avoir un coup de théâtre.
Oui, oui, c'est possible. Ouais.
Voilà, bon, en tout cas, le Canada, il y a déjà des choses différentes. On peut déjà faire pousser 6 plants de cannabis pour des raisons médicales. À Denver, on peut aussi faire pousser 6 plants de cannabis à la maison, même de façon récréative. Voilà, donc a priori, il y a Grow Your Own, par exemple, si vous faites ça, hashtag Grow Your Own, vous avez des milliers de photos, des milliers de conseils. En effet, chacun y documente sa marijuana et la façon dont on peut la prendre, la partager des photos comme une bonne bouteille de vin. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup. Il y a aussi des applications Weed Maps pour voir où c'est qu'on peut trouver des dispensaires et même géolocaliser les fermes, les dispensaires qui se trouvent autour de vous si vous êtes malade et que vous avez besoin de marijuana. On arrive à trouver un petit peu de tout sur le net, y compris des choses qu'on ne soupçonnerait même pas.
Bah, y a le darknet, hein, si tu veux aller jusque-là. Sur le darknet, on peut trouver quasiment tout ce qu'on veut, paraît-il.
Oui.
Donc oui, a priori sur Internet, on peut trouver pratiquement tout.
Voilà, bon, on apprend aussi qu'il y a... Bon, par contre, ça ne serait pas une légalisation à l'uruguayenne, hein, ça serait vraiment les grosses entreprises...
C'est vrai, quand on lit l'article, là, ça fait un peu peur, quoi.
Ouais, ouais, ça sera vraiment du gros, ça sera pas des Marlboro, mais ouais, ça serait PayPal, c'est des gens qui aiment investir, qui aiment faire de l'argent... Qui se lancerait dans la légalisation et dans la culture de l'herbe.
Ouais, ouais. Oui, enfin, c'est deux cultures différentes, hein, entre l'Amérique du Sud et puis l'Amérique du Nord. Bon, à côté, on a vraiment le capitalisme dans toute sa puissance. Se trouve là-bas, bon, pas être étonné. Après, voilà, nous au cirque, on défend plutôt pas trop ce modèle de légalisation, voire pas du tout. On est plutôt uruguayen, voilà, on préfère plutôt ça. Mais, ouais, en tout cas, il faut pas imaginer autrement. Enfin, c'est difficile d'imaginer les choses autrement au Canada, aux États-Unis. Difficile d'imaginer que que des gros capitalistes ne se lancent pas dans le dans l'aventure et ça rapporte tellement d'argent, c'est fou quoi. Tout cet argent pourrait être utilisé à bien meilleur escient, mais bon, bref. Ils vont déjà changer la loi et décriminaliser de fait la consommation, et de fait déjà il va y avoir beaucoup moins d'arrestations, d'incarcérations, et c'est quand même déjà très bien quoi. Allez, on va peut-être écouter un peu de musique, parce que ça fait un petit moment qu'on discute là.
Oui, bah, juste quand même, juste pour finir ouais. Sur le Colorado, hein, on dit c'est légalisé, mais il faut rappeler quand même que même si c'est légal d'acheter, hein, on ne peut pas en consommer en public. On ne peut pas non plus en consommer dans un club, donc c'est quand même...
Tu parles du Colorado, là.
On parle ouais. du Colorado, donc c'est quand même assez difficile. Hein. Alors maintenant, évidemment, il y a les hôtels qui réservent une partie vers ouais. 25% de leur, de leur chambre au cannabinophile.
Mais bon, quelqu'un peut aller dans un endroit, acheter, rentrer chez lui et...
Oui, mais c'est pour les touristes, c'est plus difficile.
Oui, mais bon, peut-être c'est un peu... On peut peut-être pas tout avoir d'un coup, hein. Peut-être que les choses vont évoluer aussi dans les prochaines années ou les prochaines décennies. Là, on n'en est vraiment qu'au début. Non, effectivement, c'est comme ça pour le moment, mais
voilà, bon,
il y a pire, quoi.
Voilà. Mais bon, c'était juste une petite remarque. Mais en tout cas, le futur s'annonce bien aux États-Unis. On va suivre ça tout le long de l'année et jusqu'au point d'orgue de l'ONU. Voir ce qui va se passer, voir s'il va vraiment en sortir quelque chose. Donc on n'en est pas sûr, mais on l'espère très très fort.
Hey, ring the alarm. Musique, à tout de suite. Hey, whoa, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, some sound like a big jump on. Listen to sound, it's a champion. Rock the dance in any session. Rock up the woman and rock up the man. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, T-Tato, we beat them all in a row. Donkey want water, but you hold him, Joe. T-Tato, we beat them all in a row. The cost want water, but hold him, Joe. Ring the alarm. Another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm. Another sound is dying. Whoa, hey, four big sound in a one big lawn. The dance on a play, the other three keep calm. Four big sound in a one big lawn. The boom sound a play, the other three keep calm. Ring the alarm. Another sound is dying. Whoa, hey, remember this sound, it's a talk of the town. Talk of the country, hey. Rock Mr. Charlie, rock Miss Munchie. Talk of the country, so ring the alarm. Another sound is dying. I know. Ring the alarm. Another sound is suffering. Whoa, hey. Watch the sound man a tremble. Watch the sound man a pray. Watch the sound man a tremble. Watch the sound man a pray. Ring the alarm, not a sound is dying. I know, ring the alarm, not a sound is suffering. Whoa, hey, a little of this and a little of that. Rock is the common, rock is the bad. Rock the white, come rock up the black. Sweet reggae music gone, pan the attack, yes. Pan the attack, it gone, pan the attack. Sweet reggae music gone, straight non-stop. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm. Another sound is suffering. Whoa, hey, some sound like a big jump on. Listen to this sound, it's a champion. Run the dance in any session. Rock the woman on the groove of the man. Ring the alarm. Another sound is suffering. Whoa, hey, ring the alarm. Another sound is dying.
Wow. Oui, on a attaqué fort et ça arrête. Stop.
Net, ouais.
Voilà, donc c'était North Show, Ring the Alarm.
Bien. Donc voilà, il nous reste 9 minutes pour finir cette émission. On va
avec un petit cas assez particulier qui vient de Tunisie.
Ouais, alors la Tunisie, juste pour rappeler que il y a pas si longtemps, il y a eu pas mal de pourparlers, de débats en Tunisie pour éventuellement changer la loi sur le cannabis, qui là-bas aussi fait des dégâts. Il y a pas mal de gens qui s'opposent à la loi sur le cannabis en Tunisie, et puis finalement il n'y a pas eu de changement pour l'instant, en tout cas c'est statu quo et la répression continue. Et dernièrement, ce sont deux jeunes Tunisiens, donc Adnan Medeb et Amin Mabrouk, qui ont été arrêtés le 28 novembre dernier pour, je cite, consommation de matières stupéfiantes.
Alors qu'aucune matière stupéfiante n'a été trouvée sur eux, mais ils n'ont même pas été pris en flagrant délit de fumage.
Non. Par contre, dans leur voiture avec eux, il y avait un paquet de feuilles à rouler. Ouh là là ! Un paquet de feuilles à rouler. Et ben, malheureusement, ça suffit à la police après pour vous embêter. En gros, vous cherchez à vous imposer un test de dépistage de consommation. Ce que les deux jeunes hommes ont refusé, en fait. Ils ont refusé d'accepter ce dépistage.
Tout à fait. Et donc, à la suite de ça, ben, la police a sévi.
Et, ouais, ils sont un peu emmerdés, là, les deux jeunes. Hein. Donc, ils risquent quand même une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 000 à 3 000 dinars. Voilà, donc c'est quand même mal parti pour eux. Alors, il y a quand même les avocats qui sont sur le coup. Là, il y a un chargé de communication au sein du ministère de l'Intérieur qui s'appelle Walid Lougini, qui dit n'importe quelle personne peut être arrêtée pour subir un test de dépistage de l'usage du cannabis. C'est moi qui finis là. Il dit même des feuilles à rouler peuvent être considérées comme une preuve de culpabilité. Voilà. Mais un test de dépistage peut infirmer ou confirmer cette culpabilité. Voilà, donc.
Et pourtant, la loi tunisienne n'a rien prévu en cas de refus de se soumettre au test.
Oh, voilà.
Mais voilà, la justice et la police a tranché pour la loi. Hein. Et donc, ils ont considéré que le refus de se soumettre au test était une preuve de culpabilité. D'autant plus qu'il y avait ces fameuses feuilles à rouler, quoi.
C'est marrant parce qu'ils auraient pu, par exemple, même si c'était pas une preuve, mais on aurait pu lire dans cet article que, par exemple, les policiers auraient senti l'odeur. Mais là, non, même pas. Donc c'est vraiment léger, hein, quand même, comme preuve, quoi, avoir des feuilles à rouler. Enfin, moi, qui travaille dans un domaine qui est un peu différent. Et je vois par exemple les travailleuses du sexe peuvent être ennuyées parce que par exemple on va trouver sur elles des préservatifs. Bah là ça fait un peu penser à ça. C'est pas parce que vous avez des préservatifs sur vous que vous vous prostituez, c'est pas parce que vous avez des feuilles à rouler que vous fumez des joints non plus. Hein. Mais en tout cas, voilà, il semblerait que dans ces domaines-là, les deux raisonnements sont valables pour la police et la justice, quoi.
Oui, mais ça me rappelle une petite blague qui était arrivée dans un train où quelqu'un avait une cigarette à la bouche, non allumée. Et donc, un contrôleur lui disait de l'enlever, puisqu'il était interdit de fumer. Et donc, il disait, mais
je fume pas.
Ma cigarette, elle est éteinte, je ne fume pas. Mais, et donc, l'autre considérait, il disait, c'est interdit de fumer. Et en fait, le mec, il dit, mais vous voyez, là, j'ai des chaussures aux pieds, et pourtant, je ne marche pas. Voilà, quoi, c'est bon.
Alors, juste pour terminer, il y a des militants quand même en Tunisie qui travaillent sur cet aspect, sur ces lois sur les drogues et sur le cannabis. Donc, il y a un collectif citoyen qui s'appelle Al-Sajin 52, c'est-à-dire le prisonnier 52, qui lutte pour réformer donc cette loi numéro 52, en fait. Et qui dit, c'est un peu comme ici, hein, d'ailleurs, hein, cette loi est un prétexte pour faire taire les artistes critiques envers les forces de l'ordre. Un des membres du collectif, Aziz Amami, qui s'exprime sur une radio, qui dit que seules les institutions bien établies peuvent le faire, en l'occurrence la Cour constitutionnelle inexistante jusqu'à présent, car cette loi est inconstitutionnelle. Alors, nous aussi, en France, la loi n'est pas constitutionnelle. Hein, sauf que pour arriver à mettre en route un processus qui aboutisse à l'inconstitutionnalité d'une loi, en France, en tout cas, c'est impossible. Peut-être qu'en Tunisie, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose, parce que la France étant un État colonial, il y a pas mal de lois qui sont encore en vigueur en Algérie ou dans certains pays d'Afrique qui sont calquées sur les lois françaises, donc qui sont pas forcément très, très respectueuses des droits humains et des procédures constitutionnelles non plus. Voilà.
Voilà, en tout cas, ces deux jeunes gens deviennent des
martyrs, hein. Enfin, des
porte-drapeaux d'une affaire qui a été médiatisée. En tout cas, ils sont les porte-drapeaux donc de cette lutte pour l'abrogation de la loi 52. Je ne sais pas s'ils y arriveront. On leur souhaite en tout cas bon courage et on espère que les forces démocratiques fonctionneront mieux en Tunisie qu'en France.
Voilà. Donc, comme je disais un peu au début de l'article, il y a eu une réforme qui était prévue au début. Réforme qui a failli se faire sous l'ancien ministre de la Justice Mohamed Salah Ben Aïssa. C'était il y a quelques mois, je crois 18 mois à peu près. Donc il y a eu des changements. Donc c'est. Voilà, pour l'instant, la réforme de la loi numéro 52 qui était un peu bien partie. Bon, pour l'instant, c'est plus le cas. C'est fini. Donc bon, on arrête, on réprime. Et voilà, deux jeunes qui ont. Visiblement pas fait grand chose, en tout cas ils avaient que des feuilles à rouler sur eux, pour l'instant ils se retrouvent dans les ennuis à cause d'une loi comme ça en Tunisie. Voilà. Il nous reste 2 minutes.
Voilà, donc juste 2 minutes pour parler de cette petite chambre, de cette petite...
Quoi,
cette petite brève qui vient du Moniteur, donc le journal
du bâtiment,
tout à fait. Oui, du béton en deux chambres pour réhabiliter un immeuble parisien. Donc c'est un petit immeuble du 18e siècle,
rue de la Huchette à Paris.
Voilà, donc voilà. Dans un quartier assez huppé quand même. Et donc dans le cadre du plan climat, ils essayent de réhabiliter ces immeubles, en tout cas de les isoler. Et donc là, la technique qui a été choisie, c'est de réhabiliter cet immeuble en lui faisant un pourtour en chambre, en béton en chambre.
En béton de chambre, oui.
Voilà, le but, c'est de baisser la consommation énergétique de 80 kWh par mètre carré par an pour obtenir le certificat patrimoine habitat et environnement. Et donc, ils ont choisi cette solution en mettant donc...
La chaux aérienne est de la chaîne Vought, donc... La partie des tiges et du cannabis, du chanvre en fait. Voilà, le matériau est projeté sous forme de béton de chanvre pour le doublage isolant intérieur, voilà, et sous forme d'enduit isolant en ravalement extérieur pour ce qui est de l'isolant extérieur, je crois comprendre.
Voilà, tout à fait.
Et pourquoi ? Parce que le chanvre en fait est excellent pour tout ce qui est régulation de la température et de l'humidité, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Et la
ventilation aussi.
Ouais, donc ça c'est assez bon pour isoler. Et surtout l'avantage, c'est que c'est un béton qui est beaucoup plus léger et donc ça ne surchargerait pas les fondations.
Ah, d'accord. Ouais.
Ce qui est aussi quand même assez intéressant sur ces vieilles bâtisses qui n'acceptent pas forcément les deux surcharges supplémentaires.
Ouais. Oui.
Voilà, donc c'est une expérience assez nouvelle, hein, avec donc une isolation intérieure, donc avec 10 cm de béton de chambre et un petit enduit extérieur, je crois.
D'un centimètre et demi de chaud.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
Alors, non, l'intérieur, c'est 10 cm d'épaisseur et 1 cm de chaud.
Ça, ouais.
Et l'extérieur, 4 cm d'épaisseur plus 2 cm de chaussable.
Voilà.
Voilà, donc ils épaississent encore le mur, mais ils le rendent totalement étanche et isolant.
Merci. Voilà. Alors, juste dernière phrase que j'avais retenue, c'est que l'isolation intérieure en béton de chanvre présente une inertie hygrothermique similaire à l'inertie de masse du mur d'origine, qui n'était pas en béton de chanvre. Donc, ça permet de retrouver les mêmes propriétés d'isolation un peu qu'au départ,
oui,
sans alourdir la structure.
Voilà, et ça permet d'avoir, donc c'est très isolant, mais ça permet d'absorber l'humidité quand il fait froid ou quand il fait humide, et de le relâcher petit à petit l'été. Et donc ça régule l'humidité dans une pièce beaucoup mieux que quoi, ça évite d'avoir à mettre des dessicateurs d'un côté et de remettre des humidificateurs de l'autre.
D'accord, mais en tout cas c'est plus intéressant que du béton finalement.
Oui.
Voilà, c'est ça que je voulais savoir, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent mais c'est peut-être quand même moins bien que du béton, on ne construit pas en béton par hasard, enfin voilà. Mais ça fait plusieurs articles qu'on voit ces dernières années où on nous parle de... justement du côté vachement intéressant dans le bâtiment du béton de chanvre et tout ça. C'est un matériau assez très intéressant, qui est antisismique en plus, qui est très isolant, qui est pas lourd, qui est souple, qui amortit bien, enfin voilà, donc qui a été très bon en tant que en termes d'incendie aussi. Quand il y a le feu, ça résiste assez bien au feu, les constructions en béton de chanvre. Voilà, voilà, on va se quitter là-dessus, on a encore un petit peu de retard. Donc c'était Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon, que vous pouvez retrouver sur internet, cirque-lyon.fr pour notre site internet, cirque-lyon@no-log.org pour notre adresse mail, et vous pouvez nous écrire à Cirque Lyon, BP 93 043 69 605, Villeurbanne Sedex, ou nous appeler au 06 11 53 10 07. Cette émission ainsi que toutes les émissions de Cannabis Circus, vous pouvez les retrouver, vous pouvez les réécouter en allant sur le blog de Radio Canu, Cannabis Circus, en passant directement sur le site internet du Cirque Lyon. Les dernières émissions n'ont pas été ajoutées, mais ça ne saurait tarder. Voilà, juste pour vous dire que ces émissions, elles sont réécoutables en podcast. Et que voilà, et que c'est fini, et que maintenant c'est chasseur de son, et que nous, on sera là pendant les vacances un petit peu quand même. Hein, tu sais pas toi, mais moi je vais venir.
D'accord, très voilà. Bien.
Et bien la semaine prochaine, et bonne soirée avec Chasseur de son. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Au revoir.
Ciao, ciao.